Je me mets au milieu, mais laissez-moi dormir, d'après le film de Jean Eustache, La maman et la putain, mise en scène d'Orient Recel dans le cadre de la Bâtie Festival de Genève, une recréation. La pièce avait été présentée notamment à l'usine. Quel défi a présenté l'adaptation d'un film, une sorte de confession fleuve d'un cinéaste trop tôt disparu de 4 heures avec de longs plans séquences taiseux. Comment justement adapte-t-on ça dramaturgiquement, scénographiquement pour le théâtre?
Déjà, on écoute les mots, on les essaye, on regarde à quel moment ça nous semble entrer en résonance avec notre époque. C'est vrai que la question se posait de comment passer d'un film, de ce langage cinématographique à la scène. Et ça, c'est quelque chose qui revient souvent dans mon travail. C'est-à-dire comment parler de notre époque ou comment faire que quelque chose de 1973 résonne aujourd'hui?
Alors justement, ce film de 1973, c'est un film d'écorché vif, où la durée est essentielle, de longs plans fixes pour regarder vivre des personnages, et surtout pour les laisser s'exprimer, dire leur mal de vivre, leur difficulté à se trouver, peut-être une nouvelle morale. Je crois que justement par rapport à ces moralités, ou en tout cas par rapport à ces codes, c'est quelque chose qui traverse pas mal de vos mises en scène.
C'est ce qui se passe. Le triptyque dont vous parliez, en fait, la trilogie, c'était une trilogie de création portrait de notre époque. Donc c'était Les Jours Heureux, Gloire et Beauté et Libération Sexuelle. Et entre le deuxième et le troisième volet, donc entre Gloire et Beauté et Libération Sexuelle, je voulais prendre un peu de temps avant de travailler Libération Sexuelle et j'ai relu plein de choses sur cette époque des années 70, 68, 70 et tout ça. Notamment ce texte, ce scénario, que je connaissais bien le film, mais le scénario aussi, je lis beaucoup de scénarios, presque plus que des pièces de théâtre. J'aime bien lire sur papier des scénarios. Et je me suis dit, mais c'est vraiment assez incroyable. Et au moment où j'ai décidé de faire Libération Sexuelle, il n'y avait pas encore cette question des 40 ans de mai 68. Hein. Et le théâtre de l'usine m'a proposé de faire des cartes blanches pour essayer des choses que je voulais essayer depuis longtemps. J'ai donc fait entre-temps Panoramique Intime et ce Je me mets au milieu mais laissez-moi dormir. Ça s'appelle comme ça parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore l'autorisation des descendants de Eustache. Et on s'est dit, mais c'est bien aussi de prendre un autre nom pour faire quelque chose aujourd'hui, parce que pour laisser son entité à ce film qui, moi, m'a marqué, qui est une œuvre en elle-même. Et là, il s'agissait de faire autre chose. Mais en même temps, on est resté très fidèle à l'écriture des mots, parce qu'il y a aussi une écriture cinématographique, et là, on s'est un peu distancié de l'écriture cinématographique, à part par quelques clins d'œil, on va dire.
Alors justement, le scénario, en quelques mots, et c'est vrai qu'on ne peut pas non plus résumer ce film monument par ces quelques phrases, mais disons, essayons. Alexandre est un jeune oisif, on y reviendra, qui passe ses journées à lire et à discourir dans les cafés de Saint-Germain-des-Prés, avant de rentrer le soir auprès de Marie, plus âgée que lui. Il lui ramène un soir Véronica, une infirmière un peu paumée, et la vie à trois s'organise. Alors justement, sur cette vie à trois, en toute liberté, cette notion également de communauté utopique, comment vous l'avez ressentie ici, avec la distance par rapport à 73?
C'est la question du choix et de comment s'engager dans sa vie, comment s'incarner, comment prendre place dans le monde. Il hésite entre ces deux femmes, mais surtout pour aussi penser ses blessures d'une troisième fille qu'il essaye d'oublier. Et je crois que c'est aussi la notion autobiographique de Jean Eustache qui m'intéressait. Là, pour moi, je me mets vraiment au service de ce propos qui est autre chose que où nous, on doit inventer un propos lors des créations. Mais je trouve que j'y vois notre époque, notre jeunesse aujourd'hui, c'est les mêmes difficultés. Et d'ailleurs, il a cette phrase magnifique, je trouve, il dit « La révolution des mœurs, c'est du flan et le fond des tabous demeure ». Et que c'est vrai qu'on parle de mai 68, et c'est marrant que les acteurs de 68, ils disent « Mais oubliez ça, mais remettez en question cette époque maintenant, aujourd'hui. Oubliez 68, arrêtez de commémorer cette époque-là et re-questionnez les valeurs très fragile d'aujourd'hui, quoi.
Alors justement, un certain nombre, notamment de politiques, mais aussi d'écrivains, il est sorti récemment un ouvrage sur la pensée anti-68. On se rappelle du discours de Nicolas Sarkozy de mars 2007 qui appelait à une liquidation au Karcher des valeurs de 68 et de ses dérives. Il y a quand même dans cette pièce manifeste, malgré toutes les critiques vis-à-vis de ces valeurs, quelque chose comme, vous le dites, l'emblème de ce qui passe comme le dernier film de la nouvelle vague, peut-être même aussi le plus profond, le plus contesté, le plus torturé aussi.
Alors, plutôt que pour moi, c'est pas un film de la fin de la nouvelle vague. Il y a de la liberté là-dedans. Il y avait et la nouvelle vague, j'associe ça plutôt à un élan de liberté, et en dehors des conventions habituelles, on sait que ce film a pu être fait si long, 3h50, parce qu'il y a eu une loi qui a changé, qui permettait au film de durer plus longtemps pour demander des subventions, enfin tout ça. Mais surtout, il y a cette liberté prise, et moi, j'essaye de prendre ces libertés avec la scène, enfin, d'être assez indépendant par rapport à qu'est-ce qui se fait, comment on raconte, comment on fait du théâtre. Ça me fait toujours beaucoup rire quand les gens disent « Ah, mais ça, c'est pas du théâtre », ou « ça le théâtre, c'est du texte », ou toutes ces polémiques ridicules autour du Grütli, par exemple, sur qu'est-ce qui est... Mais moi, ce qui m'importe, l'art a à voir avec la liberté, avec la prise de parole, à se décaler par rapport à ce qui se fait, quoi, habituellement. Comment les gens parlent, comment les gens se positionnent. Nous, on doit ébranler ça.
Alors justement, Libération sexuelle parlait d'un ébranlement des corps, d'un épuisement des corps dans une jouissance sans cesse reprise. On connaît la manière d'écriture blogueuse que l'on retrouve énormément sur le net, où des couples se mettent en scène faisant l'amour en copiant la pornographie. À l'époque, justement, avec ce triolisme, il y a une sorte d'épuisement d'autre chose qui est celui de la parole, en fait. Et quel est le rapport, justement, entre Alexandre et cette parole? Parce que c'est absolument magnifique. C'est à la fois une pensée qui se dit en même temps qu'elle se cherche. On se rappelle qu'à l'époque, c'était quand même les premiers séminaires de Gilles Deleuze, par exemple. Il y avait des gens comme Foucault. Et donc, il y a aussi toute cette pratique qui énerve peut-être ce film. Mais il y a vraiment, à la fois... côté masturbatoire ou analyse dans cette parole, mais il y a un flux absolument incroyable.
Bon, alors ça c'est évident que c'est un spectacle sur l'épuisement de la parole, du discours. C'est au bout d'un moment, il s'agit plus de parler des choses, il s'agit de les vivre, mais c'est aussi extrêmement drôle, hein, je trouve. C'est extrêmement. Il a dit aussi Eustache qu'il a écrit ce film déjà très vite. Et c'est incroyable comme c'est bien écrit, bien mieux écrit que énormément de pièces de théâtre, beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus. Enfin, il y a une fulgurance là-dedans, et il y a une. Il disait qu'il a écrit ce texte pour dire tout haut l'inverse de ce que tout le monde dit, en fait. Donc il y a vraiment une côté provocation, et ça c'est quelque chose que je ressens peu dans notre époque maintenant, l'envie d'aller foutre la merde. C'est pour ça que il y a une espèce de pensée qui dit les casseurs c'est pas bien, tout ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il y a des choses qui doivent être dites aussi rien que pour faire exister l'inverse. J'ai un ami artiste qui a organisé la journée annuelle sans poésie, la journée sans poésie, ce qui faisait exister tous les autres jours de l'année comme potentiellement poétique, mais voilà, par la négation on peut aussi. La distribution était essentielle, et je trouve on a décidé de resserrer autour de ces trois personnages, alors qu'il y en a plein d'autres dans le film, aussi parce que les spectateurs prennent une place, les spectateurs sont un des personnages dans notre version, et pour moi la distribution était vraiment essentielle, et j'en suis très fier. C'est David Gobet, notamment, qui est prodigieux. Et quand je lui ai fait lire ce texte, il m'a dit « Mais c'est marrant, c'est pas du tout moi, ce genre. Tu veux pas demander plutôt à tel comédien ou tel... » Puis je fais « Non, non, c'est justement parce que toi, tu as l'humour de ça. Parce que d'autres comédiens qui pourraient peut-être plus ressembler physiquement, mais sans l'humour ou sans la liberté face à ça. » Et ce que j'apprécie particulièrement dans ce comédien et les autres, Dominique Gubser et Anne Stephens, c'est leur liberté, leur positionnement assez indépendant, en fait.
Alors justement, il est aussi question d'adresse, et c'est pas banal dans cette maman et cette putain. Marie vous voit, Alexandre, Véronica vous voit Alexandre, Marie et Véronica se tutoient. Et c'est vrai qu'il y a un petit peu le fait que la maman sont plus proches de la putain que de son protégé. On a aussi cet échange peut-être. Le fait que peut-être Marie et Véronica se catalysent aussi sur ce vouvoiement et ce tutoiement. Comment est-ce que vous l'avez un petit peu fait circuler ?
Alors ça, c'est clair qu'il y a des éléments comme ça dans la pièce qui semblent d'un autre âge. Et ça m'intéressait aussi comme un éclairage historique aussi différent. Ça nous amène à repenser notre époque et la vision qu'on peut avoir de mai 68. Enfin, des années 70. Justement, là, c'est un film de l'après 68. C'est plutôt sur la désillusion. Et ça, c'est quelque chose dont... Est-ce qu'on va le commémorer comme on a commémoré cette année mai 68? Mais en tout cas, il y a un autre plan. Effectivement, ce vouvoiement, pour moi, c'est une espèce de légère, un traitement de ce réalisme de la parole. Par exemple, les phrases sont très construites. C'est pas du tout un langage parlé mais pourtant, tout coule, on entre dans la langue. Et quand vous parliez d'histoire d'adresse, nous, la principale question qu'on s'est posée, c'est comment adresser ça aujourd'hui au public. Et notamment, on l'a fait beaucoup par un rapport frontal. C'est-à-dire qu'on regarde le public, c'est à eux qu'on le dit, et on veut que les gens entrent dans cette parole et dans cette écriture. Alors que quand on va voir un film, on entre dans les images, dans ce temps-là, on partage ce temps avec les images, et là, on doit partager un autre temps, parce que quand même le spectacle dure 1h40 au lieu de 3h, et surtout que on c'est un autre rapport au temps, un autre rapport à ce débit de parole. Maintenant on parle plus vite, on comprend plus vite, l'humour il est plus vif maintenant qu'à l'époque, je pense.
Alors il y a une phrase qui est frappante parmi d'autres pour Alexandre: les films apprennent à vivre. Et c'est vrai que en regardant et en contemplant votre parcours théâtral, on a vraiment l'impression de cet apprentissage que vous retrouvez au travers de toutes ces pièces en interrogeant le quotidien, le rapport aux mots, aux autres, mais de manière extrêmement profonde. Et je crois que véritablement, c'est pas seulement un portrait d'une société sur les jeux de l'amour, de la souffrance, mais c'est véritablement le fait de dire justement que bah oui, apprendre à vivre par le film, le théâtre peut aussi permettre de se comprendre.
Ah oui, moi, enfin, en tout cas, c'est évident que j'essaie de comprendre les acteurs qui sont en face de moi, de comprendre les spectateurs, qu'est-ce qui leur donne envie aujourd'hui d'aller au théâtre. Pour moi, c'est pas du tout une évidence qu'on vienne s'asseoir et qu'on vienne écouter. D'ailleurs, quand je sens pas cette invitation comme spectateur, j'ai envie de partir du théâtre. Si, il y a d'abord un temps d'apprivoisement. Et chaque expérience théâtrale est vraiment une espèce d'approche pour moi mieux me connaître, bien sûr, mieux connaître ce travail, comment mieux connaître ce langage, les limites de ça. Et là, pour moi, il y a vraiment un travail sur le code théâtral, le plaisir du ludisme complice avec les spectateurs là-dessus. Et je crois que de là vient vraiment un humour. C'est-à-dire qu'il y a 15 lieux, 20 lieux dans le film, et là, on a décidé de monter ça avec un gramophone, trois chaises, et c'est tous les lieux. Le lieu, c'est la parole, quoi.
Alors justement, le gramophone, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Parce que parfois, je crois me souvenir qu'il tourne un peu à vide, où on entend juste le cratch-cratch du disque. Parfois, il y a d'autres choses qui passent. C'est quand même... On l'avait souligné tout à l'heure, il y a toutes ces stases silencieuses dans le film. La manière de faire passer le temps au théâtre, c'est extrêmement difficile. Le gramophone y participe aussi, parce que vous, même si ça fait 1h40, vous introduisez pas mal de silence quand même.
Ben, en fait, il y a un flot de paroles, et il y a des vrais temps de paroles et des vrais temps de silence. Voilà. Mais c'est à des moments très précis, de passage, on l'a séparé en actes, par exemple, parce que pour nous, c'était important. Il y a un peu trois grands parcours, trois grands moments dans le texte. Mais c'est vrai que sinon, il y a relativement peu de silence, à part ces quelques moments choisis et vraiment de ce temps partagé, quoi.
Quels sont-ils, ces moments de mémoire?
Oula, il faut que je m'y replonge. C'est en gros toute la rencontre avec Véronica, après le temps de, d'apprivoisement est véritable, enfin de où Véronica est acceptée chez Marie et le, la dernière partie où ils font vraiment couple à trois, quoi.
Alors justement par rapport à ça, je crois que dans la veine, disons, de la nouvelle vague ou d'une certaine dimension de la nouvelle vague, le film de Jean Eustache utilisait l'image comme ce qu'il appelait un anti-accommodement du scénario. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le côté illustratif, métonymique, mais il y a une tension, hein, comme chez Godard aussi, de cette période. Vous, je crois que vous l'avez préservé aussi, cette tension, notamment par rapport à cette frontalité, mais il y a aussi une distance vis-à-vis d'un texte qui est ultra littéraire, hein, qui est farci, je dirais, de références, de couches, de palimpsestes, comme ça. Donc il y a aussi une espèce d'anti-accommodement par rapport à ce qu'était le film.
Ben, Godard, dans Pierrot le Fou, il dit, il fait dire à ses acteurs, quoi, t'as acheté un disque? Non, c'est un disque tous les 100 livres. Et en fait, Godard, dans un interview, on lui a posé la question là-dessus, il dit non, moi, en fait, c'était l'inverse. Je faisais un livre tous les 100 disques. Et c'est vrai qu'on est abreuvé de musique en permanence. Et là, en l'occurrence, le gramophone, ça marque vraiment une autre époque, quoi. Le gramophone, il y a eu le CD après, et maintenant c'est le MP3. Et mon fils, quand je lui ai amené ce gramophone à la maison, il savait pas ce que c'était, quoi. Et puis, c'est une autre durée aussi. Le temps d'écoute est beaucoup plus long. Maintenant, les MP3, on peut écouter de la musique pendant 200 heures sans s'arrêter. Mais on a enlevé beaucoup de références littéraires. Il y avait aussi tout un jeu de ça, pour moi, de description de l'époque, des blagues internes à l'époque. Certaines, on en a gardé parce que c'est une manière vraiment de ça nous plonge vraiment dans l'époque. Mais je crois qu'il y a beaucoup de ludisme derrière tout ça, un ludisme désespéré. Et c'est vrai que si là, la question, c'est comment faire passer cette parole, c'est comment construire quelque chose de nouveau avec cette chose qui a vieilli d'une certaine manière, mais qui est, parce qu'elle est très ancrée dans son époque, et ce film, parce qu'il est très ancré dans son époque, est intemporel, en fait.
Une écrivaine française comme Annie Ernaux, qui a beaucoup témoigné de cette période et notamment de sa condition de femme, dans Un passé simple par exemple, sur son avortement, sur le fait qu'effectivement à l'époque, l'avortement n'était pas légalisé, que le statut de la femme naviguait à vue entre la maman et la putain. Et donc j'aimerais qu'on revienne quand même à ce film et à ce duo féminin. Eustache a été vilipendé par un certain nombre de féministes parce qu'il y a toute une manière, disons, de prendre ce texte qui est quand même d'une rare violence à certains moments donnés dans les rapports de couple et dans les rapports à la femme, parce que la question de l'avortement pouvait aussi se poser dans ce trio. Qu'est-ce qu'il en est sur ce titre? Comment est-ce que vous l'avez ressenti aussi par rapport aux deux personnages et à la société assez bloquée quand même de l'époque?
Ben, en fait, ce qui m'intéresse, c'est qu'il questionne ça, et justement, ils disent qu'il faut sortir de ces visions bipolaires. Elle le dit d'ailleurs, Véronica, il n'y a pas de maman, il n'y a pas de putain. Forcément, le spectateur plaque cette image de maman sur Marie, de putain sur Véronica, et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. En fait, ça m'intéresse quand on essaie d'aller défricher ses couches. Et là, c'est le spectateur qui fait vraiment ce travail, je crois, naturellement.
Et là, vous le dites, pour terminer sur ce « je me mets au milieu, mais laissez-moi dormir », que ça faisait longtemps, effectivement, que vous aviez envie de monter la maman et la putain, et vous parlez justement de cette question universelle de l'injustice fondamentale qui semble présider au jeu de l'amour et des souffrances qui en découlent. Dans ce film, justement, il y a la tendresse, le plaisir, mais il y a aussi l'angoisse, la folie, ça on pourra peut-être en dire quelques mots, la liberté sexuelle, mais la souffrance parfois à la limite du supportable. Alors il y a beaucoup de ludisme, c'est vrai qu'il y a moins de gravité dans votre adaptation que ce qu'on a ressenti dans le film, mais ça c'est aussi une question de la durée, c'est aussi une question qui est liée à Jean-Pierre Léo également, qui était un acteur cyclotymique, ultra-dépressif, peu contrôlable, et c'est pour ça qu'il était d'ailleurs apprécié, je crois. Qu'est-ce qu'il en est justement sur cette souffrance tout de même?
Ben, ça c'est des choses qui font partie de la vie forcément. J'apprends ça à personne, je crois que tout le monde est d'accord là-dessus et que chacun s'en accommode comme il peut, et on essaie d'évacuer ça toujours. Enfin, Alors après, moi, je suis persuadé qu'on parle de la du tragique en parlant du bonheur à la manière des Demoiselles de Rochefort, par exemple. Ça traite que du bonheur, et en fait, derrière ça, c'est toujours double, quoi. Et la souffrance. Ben voilà, on le sait, cette chose qu'on découvre à l'adolescence, que plus on est intéressé par quelqu'un, plus on désintéresse cette personne, plus c'est complètement injuste, c'est pas rationnel, la souffrance, c'est quelque chose d'intime qu'on doit composer avec. Après, comment ne pas se positionner en victime, comment transformer ça, peut-être en faisant de l'art, j'en sais rien, mais en tout cas, je crois que la place de l'artiste est en tout cas pas de se placer en victime, et le problème et on croit que on est acteur du monde dans lequel on vit, et Jean-Pierre Léo, en l'occurrence ce personnage, ou Jean Eustache, ils prennent la parole avec ça, et ils font le constat aussi de le discours, la limite du discours, en fait. Et puis vous parliez de Sarkozy, on est dans ça aussi complètement. C'est-à-dire qu'on peut charmer avec la langue, on peut. Il y a une limite à ça. Comment on compose au-delà de ça?